Version originale. Patrick, Léon Émile.
Bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs. Merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque samedi à 19h, dans une nouvelle édition de Version originale. Dans une France qui se refuse à parler de race, le métissage est aujourd'hui un lieu commun. Comment s'identifient les personnes perçues comme métisses, les enfants de couples mixtes? Le mythe du métissage réussi, harmonieux, masque-t-il les inégalités raciales, les disparités sociales? Ce sont les questions que soulève le livre de Solène Brun, « Derrière le mythe métis », publié aux éditions La Découverte. Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Bonsoir Solène Brun.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Solène Brun, vous êtes donc sociologue, chargée de recherche au CNRS et spécialiste des questions raciales. Vous nous invitez donc à déchiffrer ce qui se joue, ce qui se cache derrière le mythe métis. Dans cet ouvrage, vous vous intéressez aux couples mixtes en France et à leurs descendants, à travers une étude qui révèle de quelle manière le métissage et la race forment une expérience sociale. Solène Brun, avant que vous analysiez pour nous ce qui se trouve derrière le mythe métis, arrêtons-nous sur cette réalité même de couple mixte. Qu'est-ce qu'on met dans ce vocable imprécis, vague de couple mixte? Qu'est-ce qui caractérise un couple mixte?
Alors en soi, pas grand-chose. Ou alors, ce qui caractérise le couple mixte, c'est la mixité. Et la mixité, elle peut être définie de plein de manières en français. Et d'ailleurs, j'essaye dans le livre, dans le chapitre 3, de passer un peu en revue justement les différentes manières dont la sociologie a défini les couples mixtes. Puisqu'en soi, la mixité, ça peut être une mixité de classe, ça peut être une mixité de genre, dans auquel cas les couples hétérosexuels seraient des couples mixtes. Pour la sociologie, la démographie, les couples mixtes, ça a beaucoup été, et ça l'est encore pour la statistique publique par exemple, des couples formés entre une personne française et une personne étrangère. Où là, la mixité, c'est le critère de mixité qui est retenu, c'est le critère de nationalité. Et moi, dans mon travail, je fais un peu un pas de côté par rapport à ces définitions-là. Disons que j'en trouve une autre, enfin, je l'invente pas évidemment, mais je décide de m'en donner une autre. C'est-à-dire que les couples sur lesquels je travaille dans ce livre sont des couples formés par une personne qui est racialisée comme blanche et une personne qui est racialisée comme non blanche. C'est-à-dire que la mixité qui m'intéresse dans ce travail, c'est une mixité, disons, dans la différence de position dans ces rapports, justement, qu'on appelle les rapports sociaux de race. C'est-à-dire une différence dans la manière dont on est perçu, on se perçoit au quotidien, une différence dans la manière dont on est racialisé. Et ce qui m'intéresse, c'est de justement comprendre qu'est-ce que cette mixité-là produit sur les familles, sur les enfants qui sont issus des couples, mais aussi plus généralement, qu'est-ce que ces couples disent ou ne disent pas justement de la société dans laquelle on vit.
Sur un plan historique, Solène Brun, de quelle manière la citoyenneté française a-t-elle été historiquement racialisée? Il y a effectivement, il est question beaucoup de la couleur de la peau dans votre travail. Dites-nous, dans les grandes lignes, de quelle manière la société française, la citoyenneté française, pardon, a été racialisée.
En fait, si on s'intéresse un peu à l'histoire, et là, du coup, je m'appuie évidemment sur pas mal de travaux de collègues historiens, on s'aperçoit en fait que la question du métissage intervient très tôt dans les sociétés coloniales, et donc en l'occurrence dans la France coloniale, parce que en fait, existe pendant un temps dans ce qu'on appelle les vieilles colonies, donc les colonies notamment des Antilles, une différence de statut accordée aux personnes, justement selon alors leur rapport à la liberté, c'est-à-dire des statuts d'esclaves et de citoyens. Mais cette question va être en fait confondue puis redéfinie en vertu de la race. C'est-à-dire que on n'occupe pas le même statut selon justement le groupe racial auquel on est assigné. Il faut dire qu'à cette époque, on En l'occurrence, on a une autre définition de la race que celle que j'utilise moi. C'est-à-dire qu'on croit à ce moment-là que la race existe comme une donnée biologique. C'est-à-dire qu'il y aurait réellement des différences biologiques entre humains qui seraient telles qu'elles pourraient dessiner des groupes radicalement différents et notamment hiérarchisés. Alors, ça, cette croyance-là, on en est revenu. Notamment la génétique a montré, notamment dans les années 70, à quel point on s'était trompé à ce sujet. Mais pour autant, à ce moment-là, on est persuadé qu'il existe des races, justement, au pluriel, qu'il existe différentes races. Et en vertu de la race à laquelle on appartient, on n'a pas le même statut. Et sur la question de la citoyenneté, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, je rapporte les propos et le travail d'une historienne, Emmanuelle Saada, qui, elle, s'est intéressée à la question du métissage en Indochine, donc dans la colonisation indochinoise. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que les métis posent problème dans cette colonie, comme dans en fait toutes les autres colonies, posent problème à l'ordre colonial, parce que en fait, les empires se demandent que faire finalement de ces métis qui viennent fondamentalement troubler l'ordre colonial parce qu'ils viennent troubler l'ordre racial. Pourquoi ? Parce que les races sont supposées exister de manière discrète, c'est-à-dire non continue. Elles sont censées être des entités propres qu'on ne peut pas mélanger, justement, qui sont très indépendantes les unes des autres. Le problème, c'est que si, justement, il y a mélange, il y a aussi, un peu atténuation de cette frontière qui est censée ne pas pouvoir être franchissable. Et surtout, se pose la question de finalement, si en fait on est un peu indigène colonial et un peu colon, qu'est-ce qu'on est finalement ? Et que faire ? À quel statut assigner les métis ? Et en fait, ce qu'elle montre, c'est que la loi française va légiférer sur le statut des métis en Indochine en leur accordant la citoyenneté sur la base de la race. C'est-à-dire qu'elle dit, il y a un décret qui est passé et qui dit qu'en fait, sont présumés de citoyenneté française, sont reconnus de citoyenneté française, les métis dont, en fait, le père inconnu, puisqu'il s'agit évidemment de métis non reconnus par les pères, de père inconnu présumé de race française. En gros, à la fin des années 1920, donc on est très tard dans l'histoire de France. On est bien après, notamment, toute la période du 17e, 18e, 19e, où, évidemment, on sait assez bien comment l'architecture raciale se met en place. Là, on est quand même dans le 20e siècle, on est en 1928, et la France légifère en vertu de la race. C'est-à-dire qu'on accorde la citoyenneté française à des métis nés, du coup, de mères indigènes indochinoises, comme elles étaient appelées, et de pères inconnus, mais présumés de race française. Et elle dit, en fait, c'est fascinant de voir à quel point, justement, c'est cette question métisse qui va, en fait, forcer à un moment le législateur à prendre une décision sur que faire, justement, de ces individus qui, en fait, appartiennent aux deux groupes, et comment on décide de leur place. Et leur place, elle est décidée en vertu de la race.
Alors, effectivement, ce statut, ce constat qu'il y a des personnes métisses, si on remonte plus loin dans l'histoire, Solène Brun, dans les plantations sucrières, là je parle donc du 17e, 18e siècle, ce qu'on appelle les gens de couleur, par exemple si on prend le cas de Saint-Domingue, la colonie française qui va devenir Haïti, ce qu'on appelle les gens de couleur, ce sont donc justement ces métis, mais c'est également des noirs à qui le maître a rendu leur liberté. Là encore, ça forme en quelque sorte une classe d'hommes et de femmes entre eux. Les planteurs blancs, les propriétaires blancs et les esclaves noirs. Ce statut, justement, à l'intérieur de ces personnes, on trouve une figure qui est celle de la mulâtresse, c'est-à-dire justement la femme métisse, et qui, en même temps, figure séductrice, mais qui fait peur en même temps.
Ouais, c'est très intéressant de s'attarder un peu sur les représentations justement de ces métis, ceux qu'on a appelés les métis, qu'on a appelés les mulâtres, et qui ont différents noms ensuite selon le niveau, le degré, je ne sais pas comment on pourrait dire, de métissage. Donc on a des classifications qui sont à certains endroits, c'est le cas dans les Caraïbes, très précises, ils ont très... on spécifie le volume de sang blanc pour nommer différemment les différents métis, justement. Et c'est intéressant de s'arrêter sur comment ils ont été représentés, parce que, justement, il fascine. C'est-à-dire qu'à la fois, et ce qu'on s'aperçoit quand on remonte un peu dans l'histoire, on a évidemment une très ancienne haine du métissage. C'est-à-dire, en fait, la pensée raciale, fondamentalement, elle repose sur la croyance d'une pureté raciale. C'est-à-dire que pour croire en l'existence de groupes vraiment très distincts les uns des autres, il faut pouvoir croire qu'il existerait des races pures. Et les racialistes passent beaucoup de temps à justement se demander quelle est la plus pure de toutes les races, etc. Et pour eux, la pire chose qui puisse arriver, c'est le mélange. C'est-à-dire que le mélange vient bouleverser justement cette pureté. Du coup, on vient salir des descendances en s'unissant, par exemple, avec une personne qui n'est pas blanche, etc. Donc on a à la fois cette haine du métissage et on a en effet, en particulier sur les femmes, comme vous le soulignez, une forme de fascination, mais qui va, à mon avis, totalement de pair en fait avec la hantise, c'est-à-dire qu'en même temps, ces individus fascinent. Ils fascinent parce que justement, ils occupent un peu, ils ont un pied dans chaque monde, quoi. Et on retrouve en fait dans les stéréotypes sur ces femmes mulâtresses à la fois l'idée qu'elles sont particulièrement séductrices, mais aussi qu'elles vont être très vénales, elles vont être très manipulatrices. Et on retrouve ces déclinés aussi au masculin. Les mulâtres sont supposés fourbes, traîtres parce que finalement justement ils n'appartiennent nulle part, ou alors ils appartiennent aux deux groupes et donc on peut pas compter sur eux parce que où va leur loyauté finalement. Et je me suis d'ailleurs aperçue, et ça m'a vraiment complètement fascinée, que du coup sur ces écrits qu'on trouve, mais par exemple on va trouver chez Arthur de Gobineau dans De l'inégalité des races humaines à la fois des descriptions très précises de la hiérarchie des races et de l'infériorité des noirs, et en même temps c'est lui qui a cette formule sur ce qu'il appelle le charme puissant des mulâtresses. Donc on trouve vraiment, on voit cohabiter sous la plume des mêmes auteurs, à la fois cette haine, en tout cas cette détestation des métis et cette croyance très forte en la hiérarchie raciale, et en même temps une forme de fascination aussi parce que malgré tout, ces métis, ils ont un peu de semblant. Donc est-ce qu'ils ne seraient pas un peu mieux que les noirs qui, eux, ne sont pas métissés ?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale. Patrick, Léon Émile.
Je suis en compagnie de Solène Brun qui publie « Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France » aux éditions La Découverte. Votre travail, donc, Solène Brun, je le disais au début, prend appui sur une enquête sociologique sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Votre étude a été élaborée à partir d'une enquête de terrain réalisée entre 2015 et 2017. Vous avez réalisé une quarantaine d'entretiens avec des personnes qui ont des enfants dans le cadre d'un couple mixte. Alors, de quelle manière la race se construit au sein des familles de couples mixtes ?
Eh oui, alors ça, c'est une vaste question, et c'est une question que je me suis posée donc pendant tout au long de ce travail et tout au long en fait du travail d'enquête.
C'est le fil conducteur de l'enquête.
Tout à fait. C'est vraiment, et en fait peut-être pour raconter pourquoi je me suis posée cette question, c'est que donc moi je suis sociologue et donc j'ai été formée. Alors on m'a peu parlé de race parce que j'ai quand même été formée en France, mais ce qu'on m'en a dit et ce que j'ai appris, c'était comme nous tous d'ailleurs assez tôt, que la race est une construction sociale. Mais on ne m'en a pas dit beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on m'a laissé un peu avec ça. C'est-à-dire que, OK, je devais comprendre que la race n'existait pas comme une donnée naturelle, comme une donnée biologique. Ça n'est pas quelque chose qui existerait dans la nature. C'est une construction sociale. Et du coup, d'autres exemples qu'on a en sociologie de construction sociale, c'est la classe ou le genre. Et ce qui est intéressant avec la sociologie, c'est que, avec la classe et le genre, qu'est-ce que la sociologie a permis ? C'est de se demander, justement, comment, quelque part, on apprenait à être un membre de sa classe ou être un membre de son genre. C'est-à-dire, par le concept de socialisation, c'est cette idée que, finalement, on nous apprend de plein de manières, souvent pas du tout explicites et beaucoup plus diffuses, implicites. On apprend à se comporter comme un membre de son groupe, en fait. Et moi, je me suis un peu dit, s'il faut prendre au sérieux le fait que la race est une construction sociale, et si en effet, ça n'est pas quelque chose de naturel, si ça n'est pas quelque chose d'inné, alors c'est acquis. si c'est acquis, ça veut dire que c'est appris. Et la sociologie, pour ça, elle a un outil, c'est la socialisation. Et c'est du coup d'essayer de comprendre qu'est-ce qui justement s'apprend, qu'est-ce qui s'acquiert en famille, qui ensuite fait qu'on est ou pas reconnu comme un membre de tel ou tel groupe. Et c'est un peu ça la question que je me suis posée, c'est-à-dire que la race, historiquement, le propre de cette idée, ce serait qu'en fait, il existe des lignées raciales et que du coup, en fait, on hérite sa race de ses ascendants. C'est-à-dire que vous êtes blanc parce que vos parents sont blancs, vous êtes noir parce que vos parents sont noirs, ce qui est différent par exemple du genre. Je ne suis pas une femme parce que je viens d'une lignée de femmes. Et donc la place de l'hérédité, mais du coup de la famille, est vraiment très centrale dans la question raciale. Et j'ai voulu du coup me poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait si justement on prenait au sérieux le fait que la famille occupe une telle place dans la construction de la race, mais plus tellement d'un point de vue biologique et héréditaire, mais d'un point de vue social. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, justement, se transmet, s'apprend, s'acquiert en famille, qui ensuite va faire qu'on va soi-même s'identifier comme tel ou tel, et surtout être identifié par les autres. Parce que, justement, si on est noir parce que ses parents sont noirs, qu'est-ce qui se passe dans le cas où, justement, les deux parents n'occupent pas la même position raciale? Et on a, par exemple, un parent noir et un parent blanc, ou un parent arabe et un parent blanc. Justement, à quel groupe appartiennent les enfants? Est-ce qu'ils appartiennent à un troisième groupe? Est-ce qu'ils appartiennent au groupe minoritaire, c'est-à-dire le plus minorisé, comme c'est le cas aux États-Unis? Si aux États-Unis, il y a cette règle qu'en gros, on vous rattache au groupe le plus subalterne, disons. Et moi, j'ai voulu me demander justement qu'est-ce qui se passe en France, à quel groupe appartiennent ces individus nés de couples mixtes. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que, à mon avis, ça dit beaucoup des processus justement de racialisation, c'est-à-dire de la manière dont les groupes sont créés au quotidien. Comment on crée des frontières entre les groupes, comment on crée des appartenances, à quoi ça tient justement d'être reconnu comme membre ou pas d'un groupe. Avec cette idée que là, les descendants de couples mixtes sont un petit peu un cas un peu expérimental parce qu'ils sont aussi une population pour lesquelles, potentiellement, les traits physiques comme marqueurs de racialisation portent pas la même évidence que pour d'autres personnes. C'est-à-dire que, potentiellement, leurs traits physiques sont un peu plus ambigus et que, du coup, on ne sait pas forcément d'emblée comment les positionner. Et du coup, ça permet, au-delà des apparences physiques, au-delà des marqueurs, justement, phénotypiques, etc., de se poser la question de sur quoi ça repose, finalement, la construction de ces groupes-là.
Alors, est-ce que les couples que vous avez pu rencontrer, est-ce que tous les couples que vous avez interrogés, accordent-ils la même importance à la question de la race ?
Non. Alors, en effet, c'est une très bonne question. Pas du tout. Et d'ailleurs, la plupart, c'est même pas tellement qu'ils n'y accordent pas a priori d'importance, c'est plutôt qu'au départ, ils ne se posent pas tellement la question en ces termes-là. Mmh. Aussi parce que les couples que je rencontre sont français, ont été élevés dans la société française qui est une société dans laquelle, en fait, on ne nomme pas la race comme rapport social.
On dit qu'elle n'existe pas.
On dit d'ailleurs qu'elle n'existe pas. Et donc, la plupart des gens que je rencontre, moi d'ailleurs, au départ, sont des gens qui se mettent en couple parce qu'ils tombent amoureux d'autres personnes. J'ai même des personnes qui me disent « Mais évidemment, moi, je ne suis pas tombée amoureux d'un noir ou je ne suis pas tombée amoureux d'une blanche, je suis tombée amoureux de quelqu'un. » Et il se trouve que cette personne était noire, ou l'est toujours en l'occurrence, ou est blanche. Et donc, il y a ce que les couples, évidemment, au départ se disent, et puis il y a un certain nombre de réalités sociales qui vont venir les percuter. Et ça va se passer, alors pour certains, quand il s'agit de présenter le conjoint ou la conjointe à sa famille élargie, où là, potentiellement, des questions vont intervenir. C'est-à-dire que, par exemple, un certain nombre des conjoints blancs que moi, je rencontre, disent, pas tous, mais certains disent dans les entretiens que ils ont prévenu leur famille en amont. Et s'il faut prévenir, c'est que potentiellement, ils anticipaient que ça ne soit pas évident, ou que ça ne se passe pas sans question, justement, de s'unir à quelqu'un qui n'est pas blanc, c'est-à-dire n'appartient pas au même groupe supposé racial. Et donc, il y en a pour qui ça intervient dès ce moment-là, le moment où on présente son conjoint. Et pour d'autres, ça va venir plutôt à la naissance des enfants, en fait. Et les questions vont arriver aussi parce que les enfants eux-mêmes vont arriver avec des questions. Et les enfants vont, avec leurs mots d'enfant, avec leur regard d'enfant, questionner leurs parents. Certains sur, de manière très prosaïque, sur la couleur de leur peau. Se poser des questions sur il y en a qui disent pourquoi papa est telle couleur, pourquoi maman est telle couleur, et donc là il faut quand même répondre, donc il faut avoir quelque chose à répondre. Et puis certains, de manière pour le coup un peu moins joyeuse ou un peu moins innocente, vont revenir avec, y compris très tôt, dès l'école maternelle, des histoires de racisme ou de un tel copain n'a pas voulu jouer avec moi parce que je suis de telle couleur. Et là, pareil, les parents sont confrontés, souvent malgré eux, en fait, à cette question-là. Et au fait qu'on peut tout à fait se dire qu'on aimerait que ces catégories et que cette manière de penser ne prennent pas de place dans son existence. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la réalité nous rattrape. C'est-à-dire que parce que, malheureusement, d'autres personnes accordent de l'importance à cela, alors on est obligé de s'y confronter.
Est-ce que, Solène Breuer, vous avez pu percevoir une différence chez, par exemple, les couples? Je parlais de l'éducation transmise aux enfants. C'est les personnes donc, d'origine d'Afrique noire et des personnes d'origine des Caraïbes.
Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, dans le... Il y a forcément des différences parce que, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le positionnement dans les rapports de race. Mais il y a aussi forcément d'autres questions qui viennent avec. Et c'est-à-dire que selon la distance du lien à la migration, j'ai des parents qui sont, disons, de la première génération d'immigration, d'autres de la deuxième génération, c'est-à-dire qui sont nés en France, qui ont grandi en France. Mais donc... En fait, la question quand même d'un certain lien à la migration persiste. Et là, forcément, c'est pas les mêmes héritages. Ce sont pas les mêmes manières d'envisager les choses qu'on soit, par exemple, antillais ou qu'on soit d'origine africaine, quand bien même on est racialisé comme noir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rapport. Alors déjà, il y a la question de la langue, évidemment. Et puis selon le pays, pour le coup, parce que par exemple, je pense à une de mes enquêtées qui vient d'un pays d'Afrique, mais qui n'est pas un pays qui a été colonisé par la France, donc où la langue est l'anglais et pas le français. Donc il y a évidemment la question de la transmission des langues, mais il y a un rapport, pour le coup, à la citoyenneté et au fait d'être français, qui est fondamentalement différent chez les Antillais et chez des migrants étrangers, disons. C'est-à-dire que, quand même, les Antillais sont français et le sont depuis des générations et des générations.
Même si tout le monde ne veut pas le reconnaître, c'est le cas.
Voilà. Et ça crée quand même un rapport à la citoyenneté qui est en partie différent pour des personnes qui, en fait, par exemple, seraient des primo-arrivants ou des primo-arrivantes en France, qui ont un parcours de migration et qui viennent littéralement de l'étranger, c'est-à-dire qui arrivent dans un pays qui est un pays d'accueil à ce moment-là. Et ça, notamment, le rapport au pays d'accueil, je le vois, et donc là, pour le coup, ça concerne toutes les nationalités que j'ai rencontrées sur le terrain, mais il y a quand même un rapport dans ce qu'on va transmettre aux enfants, une espèce de, on pourrait dire, un certain inconfort. C'est-à-dire que, malgré tout, on ne se sent pas complètement chez soi. Et ça, on le transmet aux enfants. Ensuite, dans les descendants de couples mixtes que moi, j'ai interrogés, certains disent, mon père, il disait toujours, on est des invités ici, il faut se comporter de telle ou telle manière, il faut faire particulièrement attention, parce que, justement, on n'est quand même pas tout à fait chez nous. Et ça, c'est... un discours qu'on retrouve quand même beaucoup plus chez des personnes qui ont un lien à la migration internationale plus qu'à la migration ultramarine, puisque quand même, les ultramarins, malgré tout, sont français et ça produit un certain rapport à la citoyenneté qui est différent.
Et est-ce que vous sentiez que les enfants de ces personnes, eux, se sentaient davantage chez eux que leurs parents ne l'aient ?
Alors ça, c'est intéressant en effet sur la question de la... et qui est une question, je pense, qui déborde aussi la question des couples mixtes, qui est la question du rapport entre la première et la deuxième génération d'immigration. Et ça, je pense que c'est certain qu'il y a une différence. Alors il y a des différences, évidemment, aussi générationnelle au sens de d'époque de laquelle on parle, hein. C'est y compris pas tout à fait la même chose d'être de la deuxième génération, mais d'avoir grandi à la fin des années 70 ou dans les années 80, et d'être de la deuxième génération et de grandir maintenant. Je pense que à la fois il y a la question démographique, hein, il y a de plus en plus, enfin les chiffres de l'immigration ont augmenté, il y a de plus en plus de couples mixtes, donc il y a aussi plus de diversité. Il y a aussi quand même des discussions qui évoluent, qui bougent. On parle pas de la même manière du racisme aujourd'hui comme on en parlait dans les années, mais y compris quand on en parlait dans les années 80-90. On y reviendra peut-être plus tard, mais donc ça a des effets aussi sur la manière dont les gens pensent leur rapport à la France et leur rapport au fait d'appartenir au pays, de se sentir chez eux. Mais il y a aussi quand même fondamentalement un rapport entre la première et la deuxième génération, qui est justement le fait que la deuxième génération ne comprend pas, et à juste titre pour beaucoup, ne comprend pas pourquoi il faudrait faire davantage d'efforts. Puisque eux sont nés en France, ils sont français de naissance, comme n'importe quel autre français, finalement. Et qu'on peut se dire que peut-être cette idée qu'il faudrait faire un effort supplémentaire quand on arrive dans un pays d'accueil qui n'est pas celui dans lequel on est né, peut, pourrait se justifier, et encore, ça se discute, mais on peut se dire que bon, bah, y a une certaine logique à se dire que voilà, on va faire des efforts parce qu'on est invité. Mais la deuxième génération, elle n'est pas invitée. Elle est née là, y compris, elle n'a pas un ailleurs auquel se référer. Et là, du coup, c'est aussi intéressant là-dessus. Par exemple, si on regarde les données statistiques en France sur les déclarations de discrimination raciste, on voit que la deuxième génération rapporte plus de discrimination raciste que la première génération. Et ce qu'expliquent les sociologues à ce sujet, c'est pas tellement que ce qu'on enregistre, c'est la déclaration. C'est-à-dire, quand on vous pose la question, est-ce que vous avez été discriminé, est-ce que vous allez répondre oui ou non? Donc, on enregistre ce que vous en dites. On n'enregistre pas, en effet, les faits de discrimination. Et pourquoi on se dit qu'il y a une telle surdéclaration, c'est-à-dire une plus grande déclaration dans la deuxième génération que la première? Alors, il y a évidemment l'hypothèse que peut-être il y a plus de racisme envers la seconde génération, ou alors la seconde génération interprète plus tout un tas d'interactions qu'elle vit au quotidien comme étant raciste, parce qu'elle la considère moins acceptable, en fait, que la première génération. Parce qu'il n'y a aucune raison, justement, de l'accepter si on est français comme un autre. En l'occurrence, la deuxième génération et les descendants de couples mixtes également s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout à fait des Français comme les autres.
On continue à parler donc de l'enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Solène Brun, je rappelle le titre de votre livre, « Derrière le mythe métis » aux éditions La Découverte.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
In her, you must endure the seasons ever changing. Face the frost, the holocaust of life's been rearranging. Evening bells and wishing well, the one who won't be naming. Evangeline comes claiming. I can see her fair face, sure as you can spy the sparrow. Swiftly now she turns and bows and flies straight as the arrow. Dusky dells and private hells, Evangeline comes claiming, brings forth a gentle winning, Evangeline. Constantly keeps burning. Within her gaze, the sun's own rays now keeps my head from turning. When you think you know it all, Evangeline discerning.
brings forth her gentle linen. Trust in her, you must endure the seasons ever changing. Face the frost, the holocaust of life's been rearranging. Evening bells and wishing well, the one who won't need naming. Evangeline comes claiming, the one who won't need naming. Evangeline comes claiming, Evangeline, Evangeline.
La musique de Gary Lucas, le titre du morceau Evangeline sur Aligre FM 93.1. Vous êtes bien dans Version Originale, je reçois Solène Brun, sociologue, qui publie chez La Découverte « Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France ». Solène Brun, vous, d'un côté, vous, c'est un élément important dans la réflexion qui est dans votre livre. En 2018, donc, la suppression du mot « race » de la Constitution a fait l'unanimité en France. De l'autre côté, l'usage du terme métissage perdure. Dites-nous, parce que ça, c'est, ce constat-là joue énormément dans ce qui va vous conduire à porter cette réflexion. Comment analysez-vous cela ?
Ouais, en fait, c'est un paradoxe qui m'a servi aussi de ligne d'interrogation tout au long de l'écriture. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai cette phrase dans le livre où je dis « En France, la race n'existe pas, mais le métissage est partout ». C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un pays dans lequel tout le monde, les responsables politiques, médiatiques, s'évertuent à rappeler à quel point la race, c'est pas quelque chose de français. Alors là, on a entendu beaucoup ces dernières années à quel point c'était une importation des États-Unis. Mais moi qui ai grandi au début des années 90 en France, la rengaine à l'école, c'était de nous dire il n'y a pas de race au pluriel, il n'y a qu'une race humaine. Ce qui est très vrai d'un point de vue biologique et naturel, et qui en même temps ne répond pas beaucoup à la question des inégalités raciales qui perdurent malgré tout dans ce pays. Donc il y a bien quelques personnes qui doivent croire qu'il y a des différences pour que les différences perdurent. Mais donc on est à la fois dans un pays, donc en sociologie on dit colorblind, c'est aveugle à la couleur, ou aveugle à la race finalement, c'est-à-dire un pays dans lequel on ne reconnaît pas d'importance à la question de la race comme catégorie sociale. Et donc, vous le disiez, en 2018, les députés ont voté à l'unanimité cette proposition de loi, alors qu'il n'a finalement pas été suivi d'effet. Le mot est toujours dans la Constitution, mais malgré tout, de l'extrême droite à la gauche radicale qui siégeait à ce moment-là, tout le monde était très d'accord pour dire c'était extrêmement important d'enlever ce mot qui est infamant de la Constitution. Et en même temps, déjà, un premier constat, c'est de se dire, si l'idée fait tellement consensus, y compris dans l'extrême droite, il y a fort à penser que peut-être c'est qu'elle n'a pas tant d'effet que ça, cette suppression. Et aussi, il y a un peu une collègue philosophe, Magali Besson, qui dit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu rigolo à accorder autant de poids au mot, finalement. C'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'en supprimant le mot, on va supprimer la réalité du racisme dans la vie des individus. Ça paraît pas très sérieux, finalement. Mais donc, à la fois, il y a cette dénégation de la race dans la société française. Et en même temps, ce que je trouve fascinant et qui m'a beaucoup intéressée dans l'écriture du livre, c'est que si on prend la période des années, du début des années 80 au début des années 2000, le thème du métissage était en fait partout.
C'est-à-dire qu'on
tout était métisse, la musique, la nourriture, le théâtre pouvait l'être, les spectacles, les gens, et on célébrait ce métissage-là. Et pourquoi je dis que c'est contradictoire ? Parce que le terme de métissage, fondamentalement, et c'est ce que je montre, et du coup, dont on a un peu parlé avec l'histoire du mot, mais ce terme est saturé de race, dès son invention. C'est un terme qui est racial. On peut le réinventer et parler de métissage culturel, mais fondamentalement, c'est un mot qui parle de race. Donc comment c'est possible qu'on soit dans une société qui, à la fois, passe tellement de temps à essayer de ne pas parler de race, et en même temps, qui, par contre, se construit aussi beaucoup sur cette célébration du métissage. Et ce que j'essaye de... Et donc, cette célébration-là du métissage et cette croyance, peut-être surtout, que le métissage et le vivre ensemble, la France black, blanc, beurre, finalement, serait ou pourrait être la solution au racisme, c'est ce que j'appelle le mythe métisse. Dans le livre, c'est cette idée, cette croyance que, finalement, la solution aux inégalités et à la domination pourrait se trouver du côté de l'amour et du vivre ensemble. Ce qui, en fait, sont malheureusement des questions très différentes, hein, et que l'amour s'accommode très bien de la domination. Et donc, finalement, s'aimer n'empêche pas du tout de dominer. Et donc, dans ce cas-là, le fait de s'aimer résout finalement pas grand-chose, encore une fois, malheureusement. Mais donc, voilà, j'essaye d'explorer qu'est-ce que ces célébrations. Et puis, alors, du coup, j'en donne des exemples. Je donne l'exemple de évidemment, la victoire de la France lors de la Coupe du Monde 98 contre le Brésil, où là, on a eu, en effet, toutes ces célébrations de la France black, blanc, beurre. Puis, un an et demi après, l'élection de Sonia Roland, première femme métisse, du coup, à remporter le titre de Miss France, et qui, à ce moment-là... a été finalement un peu investie d'une mission pour la nation. C'est-à-dire que Sonia Roland était censée incarner la France de l'an 2000. Donc elle était Miss France 2000. Et puis voilà, alors voilà, on trouve des journaux qui titraient à ce moment-là, bah, voilà, quoi de mieux pour incarner cette France-là qu'une Miss métisse. Alors elle est tantôt appelée la gazelle de Bourgogne. On parle de sa couleur café crème. Enfin, du coup, on utilise toutes ces métaphores qui sont en fait des manières, voilà, de parler de sa racialisation, véritablement. On a même Geneviève de Fontenay qui dit que cette élection, en fait, est un message vis-à-vis de l'Afrique. Alors, là, c'est quand même un peu étonnant de relire ces déclarations aujourd'hui. On ne sait pas très bien est-ce que l'Afrique, comme continent, attendait un message de la part de la France et de son élection Miss France. Je ne suis pas sûre, mais quel est ce message selon Geneviève de Fontenay? Ce serait le message selon lequel la France n'est pas raciste, puisque la France a élu Sonia Roland. Et donc revient cette idée, l'idée que finalement, si on célèbre tous et tout ensemble les Bleus lors de la Coupe du Monde 98, alors peut-être pourra-t-on dépasser le racisme, puisque dans cette équipe, il y a justement des Blacks, des Blancs et des Beurs, comme on disait à l'époque. Et en fait, cette rhétorique-là du mythe métisse, pour moi, elle sert aussi finalement à un certain discours de la nation sur elle-même, qui est un discours dans lequel on cherche à effacer la question coloniale, qui est quand même au cœur du sujet, puisque pourquoi existe-t-il un certain métissage, comme on disait à ce moment-là, du coup, en France? Parce qu'il existe une migration post-coloniale, donc des anciens empires coloniaux, et que leurs descendants, les anciens colonisés, sont présents sur l'Hexagone, parce que, justement, la France a été un empire colonial. Et que la question, justement, du racisme, elle est... très, très liée à cette question coloniale. La question du métissage, du coup, évidemment, elle ne peut pas se poser sans poser la question de la colonisation. Et d'ailleurs, on le voit, y compris dans les discours politiques de certains hommes politiques, je donne l'exemple de Nicolas Sarkozy et de Emmanuel Macron dans le livre, on a une certaine lecture de l'histoire coloniale française, justement, selon laquelle, finalement, la colonisation aurait été une affaire de rencontre, une affaire de mélange, de métissage, et que c'est de ça aussi que naît l'universalisme français.
Alors, pour vous, donc, Solène Brun, de quelle manière, justement, vous faites référence au propos de chefs d'État comme Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, pardon, ils ont glorifié la longue histoire de métissage de la France universaliste, issue notamment de la colonisation, mais de quelle manière le métissage présenté ainsi a-t-il servi de paravent aux violences coloniales?
Mais parce que justement, quand, en célébrant la rencontre, le mélange, l'amour, alors parce que Emmanuel Macron, c'est une interview qu'il donne à Jeune Afrique, et vraiment il dit très explicitement, c'est d'ailleurs quelque chose dont la France peut se glorifier, parce que contrairement à d'autres empires, la France, elle, a accepté de se mélanger. Nos colons, finalement, ont accepté de se mélanger. Mais en disant ça, déjà, c'est supposé que toutes les unions mixtes en terrain colonial étaient des unions consenties, ce qui quand même est évidemment faux. Ça a été montré par les recherches des collègues historiens. On sait à quel point, évidemment, la violence coloniale était aussi, sur les corps des femmes, une violence sexuelle, que tout un tas d'unions, que ce soit avec les femmes colonisées, les indigènes ou les esclaves, étaient évidemment pas consenties, et que de nombreux, du coup, dits métis sont nés de ces unions forcées ou de ces unions consenties parce que en l'échange de certains services, parce que existant fondamentalement dans une relation de profonde inégalité puisque dans la colonisation. Mais quand on célèbre en fait la rencontre et le mélange, on passe sous silence justement la violence, le pillage, l'expropriation, les viols, et c'est de ça dont on ne veut pas parler. Et pourtant, c'est compliqué de parler justement de métissage, que ce soit de la période coloniale ou aujourd'hui de la présence d'immigrés postcoloniaux en France, sans se confronter à cette histoire-là, qui est une histoire de violence et qu'il faut regarder comme elle l'est. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se dire que dans ce cas-là, tous les Français blancs sont des monstres. L'idée n'est pas de dire ça, loin de là. L'idée est de dire... Il faudrait sûrement, pour que cette société fonctionne correctement, qu'on accepte de regarder en face l'histoire coloniale avec, du coup, tout ce qu'elle a de violent et de déshumanisant en elle.
Solène Brun, quand vous passez derrière ce mythe métis, ce que vous essayez de comprendre, c'est les structures sociales, la disparité raciale et sociale. Les personnes que vous avez interrogées, en dehors de la couleur de la peau, du fait que ce soit des descendants de couples mixtes, de quelle manière essayent-elles de se positionner socialement ?
Eh bien, justement, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Et en fait, la réponse la plus courte serait de dire « ça dépend », mais évidemment. Mais en fait, justement, c'était de me demander quels étaient en fait les facteurs sociaux qui allaient faire qu'on allait se positionner plus ou moins d'un côté ou de l'autre, ou essayer de refuser l'assignation à un côté ou de l'autre. Alors, ce refus de l'assignation, déjà, pour commencer par là... Il n'est pas facile et il est même quelque part un peu illusoire, malheureusement, parce que justement, les appartenances et les positionnements raciaux sont compris de telle sorte qu'ils sont censés être mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que si vous êtes blanc, c'est que vous n'êtes pas noir. Et si vous êtes noir, c'est que vous n'êtes pas blanc. Et donc, on ne peut pas être les deux. Et c'est dans la matrice même de la race, on ne peut pas être les deux. Et ça pose un problème fondamentalement pour les descendants de couples mixtes, parce que eux, en fait, sont les deux. Et on ne les laisse pas vraiment être les deux. Et on ne les laisse pas être les deux. Alors, c'est vrai, un peu de la part de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un peu une obligation qui leur est faite de se positionner, c'est-à-dire de choisir aussi un peu, leur camp, si je peux dire. Après, il y a aussi l'idée que pour certains, de toute façon, il n'y a pas de place pour le choix. C'est-à-dire que les assignations sont telles que, vous pouvez très bien vous percevoir d'une certaine manière et vous définir d'une certaine manière. Si en fait, au quotidien, tout le monde vous perçoit différemment et interagit avec vous différemment, justement, finalement, c'est ça qui va déterminer beaucoup vos expériences sociales dans le monde. Et donc, pour ces descendants de couples mixtes, il y a quand même quelque chose qui revient beaucoup, c'est cette idée, justement, de fondamentale non-appartenance. C'est-à-dire, il y a ces formules qui reviennent, l'idée d'avoir le cul entre deux chaises, d'être un peu dans les deux mondes, c'est-à-dire finalement, à la fois d'être les deux, mais surtout de n'être ni l'un ni l'autre. Et ça, ça va se retrouver aussi parce que, ben, alors, du côté du groupe blanc, ben, très souvent, en fait, les personnes ne sont pas reconnues comme appartenant au groupe blanc. Mais du côté des groupes non blancs, il y a aussi cette idée que on remet en cause finalement leur appartenance. Alors moi j'ai appelé ça une mise en doute de l'authenticité raciale, avec des guillemets évidemment, parce que je ne pense pas qu'il existe une authenticité raciale bien sûr, mais il y a cette idée, alors ça va se retrouver dans les termes comme bounty, qui est censé désigner des personnes qui seraient noires à l'extérieur, blanches à l'intérieur. Il y a l'équivalent pour les personnes donc racialisées comme asiatiques, qui est le terme banane, qui est censé donc désigner des personnes jaunes à l'extérieur, blanches à l'intérieur, qui sont censées du coup désigner des gens qui se comporteraient comme des blancs. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée. C'était de me demander justement qu'est-ce que ça veut dire se comporter comme un blanc, se comporter comme un noir, se comporter comme un arabe, comme un asiate, etc., ou comme un vrai noir, et d'essayer justement de comprendre à quel point nos pratiques au quotidien, c'est-à-dire ça va de nos manières de parler, de nos manières de nous coiffer, de la musique qu'on écoute, des soirées auxquelles on va, des amis avec qui on sort, etc. Comment toutes ces pratiques sont en fait utilisées au quotidien par les autres comme des indices de racialisation. C'est-à-dire que, bien sûr, notre apparence physique constitue un énorme marqueur de racialisation, sinon le premier. Mais au-delà de l'apparence physique, il me semble qu'on gagnerait beaucoup à se demander, justement, un peu de la même manière qu'on l'a fait pour la classe ou pour le genre, à quel point tout un tas d'autres choses que l'on fait sont des marqueurs.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon, Émile.
La sociologue Solène Brun est mon invitée. Derrière le mythe métis est le titre de votre ouvrage publié aux éditions La Découverte, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Solène Brun, quel éclairage, quelle compréhension l'expérience sociale de la race apporte-t-elle sur les autres rapports sociaux, sur d'autres aspects, d'autres dimensions des rapports sociaux ?
Eh bien, justement, je pense que, en fait, c'est un peu comme si, en fait, on se dit, bon, la sociologie, ce serait un peu comme prendre une photo de la société à un moment donné pour en donner un portrait. Essayer de comprendre ce qui se passe à un moment T de la société. Et en fait, il me semble qu'en fait, envisager la question de la race, c'est simplement envisager l'une des dimensions, c'est-à-dire l'une des facettes du monde social. Et donc, en fait, je pourrais prendre une photo en ignorant la race, mais dans ce cas-là, cette photo, elle est tronquée. Ou alors, c'est une photo, disons, ou alors, ce serait comme, disons, dans ce cas-là, j'ai une photo en 2D, et puis si je rajoute la question de la race, j'ai une vision en 3D. C'est-à-dire que sur la 2D, j'ai la classe et le genre, et si on rajoute la race, j'ai une vision un peu plus complète des choses. C'est-à-dire que bien sûr que la classe, par exemple, est un élément déterminant dans nos sociétés, des trajectoires de vie, des positions des individus, ça va déterminer énormément de choses. La classe sociale dans laquelle vous naissez va déterminer les trajectoires scolaires, professionnelles, va déterminer aussi avec qui vous allez vous marier, avec qui vous allez avoir des enfants. Voilà, la sociologie a beaucoup montré ça, de manière parfois un petit peu déprimante, mais malheureusement, c'est notre métier. Mais ce que, en fait, prendre en compte le rapport social de race, c'est juste rajouter une autre dimension à cela. C'est-à-dire que, en fait, ça n'est pas du tout atténuer l'importance de la classe sociale ou du genre, par exemple, dans les expériences sociales. C'est juste les compléter par une autre dimension. Et d'ailleurs, je pense même que certaines interprétations, par exemple, je parlais tout à l'heure des pratiques sociales, donc quelque chose qui nous a été légué par Bourdieu, qui en fait s'est dit, pour comprendre la classe sociale, c'est pas juste, en gros, à quel point vous avez de l'argent, mais c'est aussi, une affaire de ce que lui, il appelle le capital culturel, et qui va en fait se traduire dans des pratiques, c'est-à-dire en fait être bourgeois, c'est pas juste avoir de l'argent, c'est aussi avoir de l'argent et, par exemple, aller au théâtre et à l'opéra. Ça, c'est des pratiques caractéristiques. Où c'est, il va dire, par exemple, il va expliquer qu'il y a des types de masculinité populaire, des types de masculinité bourgeoise. On n'investit pas la masculinité de la même manière, par exemple, selon qu'on est un ouvrier ou un cadre supérieur. C'est pas exactement les mêmes codes, c'est pas les mêmes normes. Et je pense que, en fait, il a tout à fait raison, mais je pense aussi que si on rajoute à ça la question de la race, par exemple sur les normes de masculinité, eh ben, on s'apercevrait que, il nous manquait une dimension. C'est-à-dire qu'en effet, les normes de masculinité ne sont pas non plus les mêmes, y compris au sein des classes populaires, par exemple, entre des hommes de classe populaire blanche et rurale, par exemple, ou des hommes de classe populaire urbaine et non blanche. C'est-à-dire que les manières d'habiter sa masculinité populaire, les choses qui vont faire, par exemple, qu'on va être un vrai mec ou pas, ou qu'on va, au contraire, être considéré comme moins qu'un mec, et donc comme un homosexuel ou un peu efféminé, etc. Ces pratiques-là vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que pour certains, je racontais à des étudiants à moi, donc j'habite à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et bon, un truc que je voyais pas mal en sortant de chez moi, donc il y avait un barbershop, donc un coiffeur. Et il y a quelques années, je voyais, donc c'était la mode pour un certain nombre de jeunes hommes, notamment des jeunes noirs et arabes, c'était la mode des décolorations sur les cheveux. Et donc je voyais en bas de chez moi des gars attendre comme ça dans la rue avec leur décoloration qu'ils posaient sur les cheveux, emballés dans du papier alu, comme on voit plein de femmes tout le temps qui vont chez le coiffeur. Et vraiment, je trouvais ces scènes hyper drôles. Ils étaient là avec vraiment à prendre des heures et des heures chez le coiffeur pour prendre soin d'eux, etc., faire des décolos, machin. Et je me disais, c'est marrant parce que cette pratique-là ne les dévirilise pas, en l'occurrence. Et je suis assez persuadée que pour des jeunes hommes blancs de classe populaire, ça, ce serait considéré comme une pratique qui dévirilise. Mais le fait que ces hommes-là soient des hommes non blancs, il y a un rapport au soin de soi qui est un peu différent. Bourdieu disait, en gros, il disait les hommes prolétaires, en gros, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. C'est en gros un truc de bourgeois, l'attention, le soin, le fait de passer du temps à prendre soin de soi, d'être à l'écoute, etc., de son corps. Ça, c'est pas un truc d'ouvrier. Mais moi, je pense que c'est pas un truc d'ouvrier blanc, mais peut-être que, par contre, sur le rapport, par exemple, au soin du corps, le fait de se crémer la peau, le fait de prendre soin de ses cheveux, etc., y a des pratiques qui sont différenciées, y compris selon la position raciale, et qui vont avoir ensuite des effets différents, parce que les normes sont pas tout à fait les mêmes, en fait.
Solène Brun, comment pensez-vous la question du métissage au regard de l'idée de grand remplacement véhiculée par certaines personnes aujourd'hui ?
Eh bien, je pense que, en fait, en effet, on est revenu des années 90-2000 où on célébrait la France Black Blamber. Alors, en tout cas, une partie de la France en est revenue. Et on a, le retour, il me semble, par le biais de cette théorie du grand remplacement, un retour des très anciennes haine, hantise, peur et détestation du métissage. C'est-à-dire que, pour moi, et je suis étonnée que ça ait été peu thématisé comme ça, pour moi, le grand remplacement, c'est fondamentalement une peur et une hantise du métissage. Mmh. C'est l'idée que, en fait, le groupe soi-disant autochtone blanc français est voué à disparaître parce qu'il y aura trop de mélange avec des immigrés qui, eux, n'appartiennent pas à ce groupe autochtone et qui sont des immigrés non blancs. Et un truc là-dessus, c'est que je me dis quand même que... Du coup, en tant que sociologue, ça m'intéresse de comprendre à quel endroit on est aujourd'hui en tant que société. Et je vois quand même que, par exemple, dans les médias progressistes, mais y compris assez généralistes, la manière dont on a traité la question du grand remplacement, ça a été beaucoup sur le mode de c'est une théorie du complot, il faut montrer à quel point elle est fausse en convoquant des démographes qui allaient expliquer, par exemple, que le volume des vagues migratoires est largement surestimé, il ne s'agit pas du tout d'une invasion, etc. Les volumes ne sont pas du tout les bons, et donc, quelque part, en fait, le groupe n'a rien à craindre, le groupe autochtone n'a rien à craindre. Et moi, j'étais toujours un peu étonnée et parfois gênée de ce type de réponse, parce que moi, j'ai envie de dire, mais en fait, et quand bien même les volumes de l'immigration ne seraient pas surestimés, et quand bien même, en effet, il y aurait des vagues migratoires très importantes qui allaient faire que peut-être dans 50, 100, 200, j'en sais rien, 300 ans, en fait, il y aurait tellement de mélange qu'on ne pourrait plus savoir qui est blanc, entre guillemets. Quel serait le problème ? Et ce « quel serait le problème », je trouve, que aujourd'hui en France, on l'entend finalement pas beaucoup. C'est-à-dire que on est tellement sur une position défensive sur cette question-là que on est quand même dans le camp progressiste, disons, de manière très large, hein, un peu réduit à juste dire mais ne vous inquiétez pas, on n'en est pas du tout là. Ce qui me semble un peu triste finalement, parce que finalement, on accepte la prémisse selon laquelle le mélange ou le métissage, pour reprendre ce terme, serait fondamentalement une mauvaise chose.
Solène Brun, pour finir, juste quelques mots concernant la peinture que vous avez choisie pour la couverture de votre livre. Donc, c'est une œuvre de l'artiste haïtienne Tessa Mars. Que pouvez-vous nous en dire ?
Ouais, alors je suis infiniment heureuse et très honorée que Tessa Mars ait accepté que nous utilisions cette image qui est du coup issue de l'une de ses œuvres pour illustrer la couverture. Ça a été compliqué de savoir comment illustrer un livre sur le métissage.
Alors, j'imagine.
J'avais eu une discussion avec mon éditrice et puis je lui avais dit oh là là, il faut surtout pas quelque chose de trop figuratif, ça va être horrible, on va avoir une main blanche, une main noire qui tiennent comme ça, ça va être vraiment laid. Et puis, donc, du coup, voilà, mon père est haïtien et je me disais que j'avais bien envie de mettre à l'honneur une femme haïtienne et une femme noire pour, enfin voilà, de mettre en avant son art. Et j'aime beaucoup, beaucoup le travail de Tessa Mars. Et j'ai trouvé cette représentation, ça représente une femme qu'on dirait un peu couverte sous plein de feuilles différentes, de couleurs et de textures différentes. Et je me disais que finalement, c'était une représentation assez jolie de ce que je voulais dire, c'est-à-dire peut-être que cette femme, ou cet individu d'ailleurs, peut-être pourrait-elle être une personne métisse, une descendante de couple mixte, qui est ensevelie sous tout un tas de discours, de représentations que d'autres mettent sur elle ou sur lui. Et que peut-être que ça irait finalement pas si mal avec le titre derrière le mythe métis.
Merci Solène Brun. Enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France, c'est publié aux éditions La Découverte, derrière le mythe métis. Merci à Dariano Pitana qui était à la technique ce soir, également Alexandre Houlbrock et Thomas Tranier. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h sur Aligre FM 93.1. Merci à vous, amis auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Bonne soirée, bon week-end, à la semaine prochaine.
Version originale, Patrick, Léon Émile. Yeah. Yeah. Yeah.
Be waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you in the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gonna catch up to me later.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.